Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia Liga. Au programme ce soir, un grand débrief de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool samedi soir. Un tour d'horizon de l'actualité en Segunda à une journée du terme de la saison régulière. Et enfin, le retour du quiz. Ce soir, la joueuse bande est très en forme. Il a le sourire jusqu'aux oreilles depuis la Chilena de Bale. Il est bouillant avant le Espagne-Suisse de dimanche soir. Elias Baelich, bonsoir.
Salut, salut à tous.
Et non, la buena. Hein.
Merci, merci. J'avais mis la chemise porte-bonheur et voilà, elle continue de porter bonheur, celle-là.
Puissant comme Casemiro, fin comme Modric et barbu comme Carvajal, Benjamin Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Le 13 en forme est aussi pour toi.
Oui.
Mais d'une autre manière.
Je m'en suis douté.
Il a survécu à ses problèmes de PC de lave-vaisselle. Jérémy Pinto, bonsoir.
Bonsoir à tous.
J'ai aucune pitié, tout ce qui est en offre ressort.
Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à cacher.
Pour ce débrief de la finale Real Madrid-Liverpool, nous avons le plaisir de recevoir le rédac chef du site God Save the Foot, site membre de la grande confrérie Football United, Ilan Dogan. Good evening.
Bonsoir les amis, good evening.
Et à propos de Football United, j'en profite pour fêter un Félix Kumple à Bastien Michel, l'un des papas du projet, s'il nous écoute. Voilà, c'est les deux papas dans ce projet, il y a Bastien Michel et Nicolas Basse, ce qui fera enrager la manif pour tous. Voilà. On va attaquer tout de suite avec le débrief sur la finale Real Madrid Ligue des Champions. On va faire d'abord un petit tour de table sur vos impressions globales sur ce match, en précisant qu'une large analyse va sortir après le podcast quand j'aurai enfin mis bout à bout toutes mes capteurs d'écran. On va commencer peut-être par Elias, notre spécialiste tactique.
Ben c'est assez drôle parce que tactiquement ce match je l'avais extrêmement bien préparé et il était assez complexe tactiquement, je trouvais. Et c'est marrant parce que, juste pour le mentionner, il y a nos collègues en Espagne des Causes del Ballon qui avaient décrypté le match en 54 points tactiques. Alors imaginez ce qu'on pouvait faire tout ça. Et après 30 minutes…
J'en ai 34 perso, Elias. Je ne suis pas très loin.
C'est vrai, ben voilà, il ne reste pas beaucoup. Et 30 minutes, ça la sort et pouf, tout le système de Liverpool prend fin, toute l'attaque de Liverpool prend fin aussi parce que quand vous avez… Firmino sur terrain et Mané, ben, ça participe quand ça va être à leur côté à donner du sens à cette attaque de Liverpool. Et dès que l'un des trois sort, ben, ça remet tout en question. Mané a dû passer à droite en plus. Donc à partir de là, ben, c'est une finale complètement différente de ce que j'avais imaginé qui s'est produite. Et puis bon, ben, revenir sur les buts peut-être par la suite, mais c'est assez étrange pour le Real de gagner un match comme ça. C'est assez étrange que le dénouement du match soit celui-là quand on voit tout le potentiel tactique qu'il pouvait y avoir autour de ce match. Mais le foot est un jeu d'erreurs et je crois que c'est une des meilleures illustrations historiques qu'on a avec les erreurs qui ont amené les buts pour le Real.
Totalement. Ilan, peut-être toi à côté Liverpool.
Liverpool, on a déjà parlé avec FM plus tôt en podcast il y a quelques semaines d'ailleurs. J'avais dit que Liverpool allait jouer son jeu, son jouet heavy metal. Mais le problème, c'est que dans une partie, c'est 90 minutes et on a justement vu ces partitions de heavy metal. Quelquefois, c'était vraiment très saccadé, alors que le Real, voilà, on a vu une symphonie qui prenait d'ampleur crescendo au fil du match. Niveau tactique, j'en ai pas autant que vous pour le coup, mais il y en a deux, trois qui m'ont interpellé, notamment quand on joue face à Liverpool. On est souvent repoussé sur les côtés. Je prends l'exemple de City avec un De Bruyne qui est un joueur plutôt axial, qui s'est retrouvé facilement sur les côtés et il n'a pas réussi à sortir. Face à la Roma, Nainggolan, il a été inexistant de la même manière. Et là, dans ce match, Modric, je pense aussi que c'est parce qu'il est bien supérieur aux deux autres mentionné, s'est totalement accommodé du pressing de Liverpool et de ce heavy metal.
Pour l'avoir revu deux fois la finale, oui. Modric fait un match exceptionnel.
Oui.
C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, et les deux joueurs que je trouvais les plus intelligents sur le terrain, c'était lui et Benzema, tout ce qu'ils ont fait ont été particulièrement intelligents. Et Modric, il a une qualité incroyable à très bien se placer. Il n'est jamais mal placé, il trouve toujours la bonne passe, le bon geste, il a bien défendu aussi. Et avec Benzema, vraiment les deux, en revoyant le match, impressionnant. Bon, après Modric, moi, je suis complètement fanboy, mais oui, effectivement. Après Kroos et Casemiro, on fait un peu, c'est un peu terne à côté.
Bon, ce qui est fou, c'est que l'une des clés de ce match, ça allait être la manière dont le Real Madrid parviendrait à sortir le ballon face à une équipe de Liverpool qui est peut-être celle qui passe la mieux en Europe. Et preuve de ça, c'est que plusieurs fois dans la saison, aussi en Premier League, ils ont complètement annihilé la sortie de balle de City, qui est pour le coup une des équipes qui sort le mieux depuis derrière en Europe. Et sur les 30 premières minutes, le pressing de Liverpool était bon. Ils ont bien réussi leur cadrage aussi. Ils n'allaient pas systématiquement chercher haut. Ils pouvaient attendre et déclencher après la 2-3e passe du Real. Mais une fois que cette minute 30 a été passée, ben, le Real Madrid a réussi à sortir comme il voulait avec Benzema. Tu l'as dit, FM, mais le match de Benzema, c'est assez incroyable. Il y avait des caméras isolées sur lui après match. Et l'intelligence de ses déplacements, la manière dont il arrive à amener une supériorité dans chaque zone dans laquelle il se déplace, c'est assez fou parce que grâce à ça, le Real Madrid a pu s'en sortir. Et le match, il a pris une toute nouvelle tournure. Une fois que le Real Madrid arrive à sortir de cette zone défensive, eh ben, ils sont dans une position qu'ils affectionnent énormément. Et ça, quand vous jouez au Real, il faut remercier Benzema pour ça parce qu'il s'est énormément déplacé. Et grâce à lui, ben, le Real a pu reprendre un peu le contrôle du match en main, on va dire.
Mais moi, pour moi, c'est ce match-là, c'est autre chose que la tactique. C'est Liverpool qui joue à l'émotion. On sait que Klopp, il aime ça, il faut faire un l'émotion. C'est un coach comme ça, il joue à fond, et ça là, c'est son dynamiteur, c'était le mec qui cristallisait tout ça, qui permettait de donner vie à ce football qui semblait par moments décousu, et qui n'est pas vraiment, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est du heavy metal, Ilan, c'est par moments, c'est énormément de pressing, énormément de botching, et après, c'est un peu de gestion, sauf que quand ça la sort, ça s'écroule, parce qu'il n'arrive pas à gérer, parce que même ça, même Klopp sur son banc, il sent que il sait que c'est fini, il reste 60 minutes à jouer. Le Liverpool fait une super première demi-heure. Et dès qu'il sort, ça s'écroule, dans les têtes, ça tombe. Et ils n'ont jamais été capables de se remettre dedans, de se remettre à l'attaque, de se remettre à jouer leur jeu. Et c'est là qu'ils n'ont perdu le match. Parce que le Real, je ne dis pas qu'ils auraient perdu si cela aurait continué peut-être sur le pré. Mais c'est ce déterminant-là. C'est comment le Liverpool a perdu dans les têtes. Avant que le premier but soit marqué, Liverpool semblait déjà avoir perdu. Parce que dès que ça la sort, ils touchent plus le ballon, ils font un pressing qui est plus vu, ils ont du mal à se mettre en position de frappe, ils ont du mal à ressortir le ballon, ils ont du mal à être organisés devant, c'est plus fouillis. Il manquait quelque chose. Et dès qu'il manque quelque chose, dès que le Real a senti l'odeur et a senti la petite ouverture, la petite place, ils ont été dominateurs, ils ont recommencé à prendre le contrôle du ballon, ils ont recommencé à jouer haut, ils ont recommencé à essayer de trouver Modric, à trouver Varane à relance, ils ont essayé de jouer leur jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont repris pied, parce que ok, il y a ce que fait Ramos, il y a les compensations, il y a les sauvetages pour permettre à Marcelo de ne pas sombrer face à Salah, même face à Mané par moment. Mais c'est vraiment ce truc-là, c'est comment le Real est froid et glaçant et juste là pour gagner. Et quand Liverpool, c'était de l'émotion, et jouer son jeu, c'était mettre de l'envie, de l'ambiance, mettre de la pression, mettre de la folie. Et comment le Salah qui cristallisait tout ça en sortant, a fait s'écrouler le château de cartes et on a vu toutes les lacunes, les erreurs, ce que Liverpool est vraiment une équipe qui est très bonne et qui n'est pas taillée pour être champion d'Europe. Et on l'a vu après parce qu'après ils ont écroulé petit à petit. Le Real a juste.
Ouais, mais Ben y a, tu prends. Klopp avait ciblé particulièrement le côté gauche du Real parce que quand ça la sort, c'est Mané qui prend sa place et c'est Lallana qui va côté gauche de l'attaque. Des Reds. On avait parlé avec Ilan lors du podcast, on le mettra en lien d'ailleurs, on avait fait une preview avant la finale. Le problème de Liverpool, et bon, c'était flagrant, c'était son manque de banc. C'est-à-dire que Lallana, on ne peut pas faire le boulot de Sané de l'autre côté, et forcément, tu perds en équilibre, tu perds en intensité, parce que Sané, il fait un énorme match, et derrière, ce n'est pas étonnant s'il change de. Il change, il se met du côté Marcelo, Kroos, Ramos. Non, mais donc fatalement, tu perds en qualité. Lallana, c'est pas terrible. Surtout, côté gauche, tu peux plus faire de changement. Il n'a pas de banc, quoi. Il fait rentrer Emre Can à la fin du match. Emre Can, il fait, il laisse le chemin ouvert à Bale sur le troisième but parce qu'il va dans il prend l'appel de Benzema. Et voilà, il n'y a pas eu. Voilà, mais après, c'est vrai que les 25 premières minutes, mais même pendant les 25 premières minutes, il n'y a pas tellement d'occasions pour Liverpool. Carnavas, il sort un centre et une frappe d'Alexander Arnold. en dehors de ça.
C'est la folie. Il y a quand même une domination qui est. C'est pas une domination.
Non, ils ont 65% de possession, le Real. Ils ont, je crois que c'est, ça se maintient sur tout le match, cette proportion-là, 65-35.
Mais quand tu
ils
regardes.
Ils pressent bien parce qu'ils ont un jeu direct aussi. Mais finalement, Marcelo, il a une frappe qui est ratée et Ronaldo, il veut aller chercher la lucarne de Karius. Voilà, au final, c'est limite. C'est les meilleures opportunités, c'est presque le Real qui les a, alors qu'ils sont complètement bouffés par le pressing, du trio Firmino, Mané Firmino, Salah pendant 25 minutes.
Non, mais tu peux pas. Ok, la première fois, il n'y a pas eu d'énormes occasions claires. Mais tu as quand même beaucoup de ballons contre Aiden la surface, il y a des situations de frappe qui n'étaient pas souvent bonnes parce que voilà, le Real sait défendre, et on l'a déjà dit, on le sait le dire, le Real adore être
Oui, non, puis clairement, ça là est un aimant sur les 25 minutes, c'est un truc de fou. Quoi.
Mais en plus, le Real adore être comme ça, je crois que c'est, je sais plus qui disait ça, mais qu'ils seraient dans un bocal rempli de serpents, ils arriveraient à s'en sortir vivants. Le Real, c'est ça, ils adorent. C'est un club qui sait se mystifier et qui sait devenir très grand quand il est au bord du gouffre. Et pendant 25 minutes, ils n'ont peut-être pas subi vraiment d'occasion claire, mais ils ont été la tête sous l'eau. Quand il y a Salah ou Mané, il est arrivé dans mon sens, qui mettent le feu côté gauche, qui est le côté très faible du Real, quand il défend en reculant. Marcelo ne sait pas défendre en reculant. C'est pas nouveau, on le sait.
Non, il ne sait pas défendre Marcelo.
Il ne sait pas défendre, mais quand c'est reculant, c'est encore pire.
Et la Roma, il fait un match qui est catastrophique.
La Juve l'avait fait aussi avant. Marcelo ne sait pas défendre, on le sait. Tout le monde sait que c'est son côté défensif. Il est très bon offensivement pour faire les ballons, pour mettre un peu de danger, de la supériorité offensive. Et défensivement, c'est un point. On l'a dit, Ramos a énormément de fois l'a aidé, l'a suppléé, lui a permis de faire le ménage pour pas qu'il prenne l'eau parce que sinon. Il fallait le tenir, Marcelo, parce qu'il sait allait sombrer, et tout le Real allait sombrer. Mais vraiment, même quand dans cette 25e minute où Liverpool était en tout cas en mesure de mettre en danger et de faire plier le Real, ils n'ont pas réussi à le faire. Et après, quand tu perds ton meilleur joueur, c'est logique de s'effondrer, en fait.
Mais je pense pas que tu peux reprocher à Liverpool de sur les 25 premières minutes de pas réussir à avoir fait plier le Real. Un match, c'est long, et les 25 premières minutes, elles servent à donner le ton. Sur ces 25 premières minutes, Liverpool fait tout juste, et c'est compréhensible que quand vous avez un pressing comme ça, c'est à la hauteur à laquelle ils ont effectué ce pressing, ça ouvre pas forcément tous les espaces que tu voudrais ouvrir derrière. Par exemple, Marcelo, si on lui avait pris le ballon quand il était déjà dans le camp de Liverpool, le boulevard qui s'ouvre derrière lui, il est beaucoup plus grand que si on lui prend le ballon quand il est même pas encore sorti de son propre camp. Donc, j'imagine que Klopp et les entraîneurs font ça généralement, avaient planifié son match sur 90 minutes, avaient planifié ce pressing sur 90 minutes, et qu'il devait y avoir différentes phases dans le match. Sur les 25 premières minutes, Liverpool, pour moi, a fait tout juste. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ces occasions dont tu parlais que les 25 premières minutes ne sont pas abouties, je dirais. Parce que
Oui, Elias, pour prolonger ce que tu dis, en fait, c'est que ça arrive souvent. Le jeu de Liverpool, en fait, ça arrive souvent qu'ils jouent sur des momentum. En fait, en anglais, on appelle ça. C'est le pic, en fait, du plus haut taux de pressing qu'on puisse avoir sur un match. Et malheureusement, voilà, lors des 25 premières minutes, bien que le pressing a plutôt bien marché, on voyait des défenseurs du Real qui envoyaient le ballon souvent sur Trent, d'ailleurs, le défenseur droit. Ils n'ont pas utilisé ce momentum en fait pour pouvoir inscrire au moins un but. Là où ils avaient réussi à le faire face à la Roma, face à la City. C'est vrai que mine de rien que a posteriori, je trouve que ces 30 premières minutes sont plutôt ratées, que les meilleures minutes de Liverpool surviennent après l'ouverture du score.
Je sais pas, parce que pourquoi on est censé t'aider, en fait. C'est vraiment particulier parce que pour moi, c'est une gestion de temps fort et de temps faible. On est d'accord pour dire que les 25 minutes sont un temps fort du Liverpool. Ils font un bon pressing, ils mettent en danger, ils amènent le ballon dans la surface. Ils ne créent pas énormément de décalage, mais ils créent des situations. Ils créent des situations pour faire quelque chose. Il n'y a pas de frappe vraiment aboutie au bout, il n'y a pas vraiment d'occasion dangereuse. Mais en tout cas, ils amènent le ballon là où ils ont dû l'amener. Ils arrivent à mettre le foulis, à mettre les pressions générales sur la tangente, sur la pente, sur le fil. Ils arrivent à les mettre en difficulté. Ils n'ont pas arrivé à les faire vaciller, à les faire des erreurs flagrantes à part sur l'occasion d'Arnold, il me semble, où c'est un ballon qui est mal renvoyé, il me semble, et c'est ça, ou c'est un centre, ou c'est une remise. Non, c'est Firmino, c'est ça, c'est lui qui fait la frappe. Arnold qui fait qui arme, et Navas qui l'arrête. Mais à part ça, où c'est une bonne occasion, le Liverpool n'arrive pas à valider ce temps fort.
Oui, voilà, c'est ça.
Et moi, j'arrive pas. Ouais, oui, vas-y.
Non, moi, j'avais aussi un truc par extension. Par extension, en fait, je pense que les deux sorties de Salah plus de Carvajal, en fait, ont totalement annihilé le rythme du match aussi.
Ah si, et bien sûr, quand c'est mon rythme, ça a servi au Real. Parce que même après, en plus, le premier but, c'est en plus, tu perds ton meilleur joueur et tu as ton défense, ton goal qui fait, là, on peut dire quand même une erreur assez bizarre, assez particulière à ce moment-là du match. Surtout qu'il fait un bon match, plus le pire sur sa ligne, il est vraiment intéressant, Karius. Et là, il est ça, la tête sous l'eau. Et quand il est à l'enfer, c'est compliqué d'arriver à se ressoulever et à en remettre un direct d'entrée pour égaliser.
Voilà, vous parlez des premières minutes où Liverpool a réussi à concrétiser, on va dire, son avantage territorial, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais cette sensation qu'ils étaient dans leur match. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait sur les 30 premières minutes face au Real Life, face à ce Real-là, ça a beaucoup de valeur. Ils ont réussi à les empêcher de ressortir le ballon, chose que personne n'a réussi à faire quasiment en 2 ans. Et je parle de la Liga et de la Ligue des Champions. En Liga, il n'y a que Eibar qui a réussi une fois au Bernabeu à empêcher complètement les sorties de balle du Real en 2 ans. Il y a par exemple un jour Levante qui arrive bien à faire ça au Bernabeu. Et qu'est-ce qui se passe? Ramos prend les choses en main, il envoie des diagonales sur Lucas Vasquez et tout le pressing est court-circuité. Ça vous donne une idée de la difficulté de presser ce Real. Et ce que j'ai trouvé très réussi de la part de Liverpool, c'est que tout le plan du Real sur les premières minutes est complètement annulé. Zidane, avec son 4-3-1-2 ou son 4-4 de losange, quand il fait jouer Isco et Benzema, c'est pour apporter des joueurs capables de faire la différence en sortie de balle. Et les premières minutes de Isco, elles sont très très mauvaises. Les premières minutes de Benzema, elles sont bien moins bonnes que la suite. Et je trouve qu'avoir réussi à reléguer le plan de Zidane à quelque chose, bon, on avait l'impression que c'était inabouti ou quelque chose en tout cas d'infructueux. Je trouve que ça a beaucoup de valeur, indépendamment du fait qu'ils n'arrivent pas à gérer, on va dire, ou à concrétiser leur temps fort par la suite.
Non, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut une bonne première mi-temps, une bonne première minute, les 30 minutes, que Liverpool est sorti dans son match. On ne peut pas dire qu'ils sont passés à côté. Mais après, comme tu l'as dit, il y a un match de 90 minutes. Et à part ces 30 minutes, ces 30 premières minutes qui sont vraiment très bons, par la suite, ils n'arrivent plus à remettre cette folie, ils n'arrivent plus à les remettre vraiment en danger. Ils sont bons sur certaines sorties de balle.
Ça c'est compréhensible, parce qu'à partir du moment où ça la sort, ça remet tout en question. Le joueur, le détonateur, oui. Le joueur qui fait toute la différence, qui intimide ses adversaires, qui est quasiment impossible à défendre, c'est ça là, c'est pas Lallana qui est un joueur beaucoup plus positionnel, qui pour moi est un joueur qui jouerait mieux dans un autre type de Liverpool, on va dire. Les meilleures heures de Lallana Liverpool, c'est pas forcément dans ce jeu de transition. Donc ça.
Oui, et puis Elias,
oui.
Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai des problèmes de son, c'est pour ça que je suis désolé si je coupe. Non, mais Isco, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il n'est pas. Évidemment, son match change juste au moment de la blessure de Salah. Parce qu'il se met à redescendre. En fait, lui, il va presser quand il y a le duel Ramos-Salah. Et quand il se met à. Je crois que j'ai pas les stats de kilométrage, mais je crois que c'est un des joueurs qui a le plus couru côté Real Madrid. Il a beaucoup navigué pour gêner la première relance et pour redescendre chercher les ballons. Et comme Benzema, on l'a beaucoup plus vu par la suite après la blessure de Salah. Salah, il était titulaire des relances. Salah, il s'occupait de tout ce qui était Ramos, Cross, Marcelo. Et d'autre côté, c'était les deux joueurs, c'était Mané et Firmino qui s'occupaient de Varane principalement, parce que Varane a une bien meilleure qualité de relance que Ramos, et le but c'était que Ramos saute les lignes. Il est parfois parvenu, parce que Wijnaldum essaie de presser lui aussi, ça a libéré la place pour Marcelo, mais il y a beaucoup eu ils ont cherché Ronaldo plusieurs fois, des passes de plus de 30 mètres avec un joueur offensif dos au but. Et ça, Liverpool l'a très très bien fait pendant les 25 premières minutes.
Après, moi, je prends la parole là, mais c'est vrai que moi, Isco m'a vraiment déçu, notamment les 30 premières minutes. On en avait discuté un petit peu avec Elias sur Twitter, et le Real était tellement acculé devant ses buts qu'on attend d'un mec technique qui puisse la garder, qui puisse avoir des passes qui... qui arrive déjà dans les pieds. Et en fait, les 35 premières minutes, tu regardes bien, Isco, il rate tout. Le contrôle, la passe. Alors c'est son joueur, c'est le joueur le plus technique du Real au milieu de terrain. Il doit faire la diff. Et là, il n'est pas là. Il est absent. Alors après, c'est vrai que quand ça la sort, le bloc remonte. Et là, il est beaucoup plus à l'aise. Mais quand ils étaient acculés, on attendait Disco vraiment là de prendre les choses en main. Et il ne l'a pas fait.
Et je trouve ça assez étrange parce qu'on voit Isco sur ce terrain qui fait des erreurs qu'il ne ferait jamais d'habitude. Les contrôles ratés, par exemple, les contrôles mal orientés, c'est quelque chose qui n'est absolument pas habituel chez lui. On l'a vu sortir de situations compliquées au pressing contre les grandes équipes, contre le Barça, contre l'Atlético, sans aucun problème, contre l'Italie aussi, sans aucun problème, en utilisant toute sa technique. Et alors là, c'était très, très bizarre de voir ce match d'Isco. Je n'avais pas l'impression d'avoir Isco sur le terrain autre que voir son nom. Mais si on m'avait dit que c'était le Isco qu'on a vu ces dernières années au Real Madrid, j'aurais beaucoup de peine à le croire. Et c'est assez difficile d'expliquer en tout cas ces 30 premières minutes d'Isco, parce que sur le papier, ben, ça ne change pas d'habitude, le scénario ne change pas d'habitude. Il faut sortir d'un pressing, il faut utiliser ses qualités techniques. Ben, Isco, il sait le faire d'habitude.
Moi, j'ai aussi un truc à ajouter. Ça m'a fait penser au fait que je vais vous parler de Firmino, parce que c'est lui, normalement, qui fait tout le travail de l'ombre en attaque, même si c'est... Enfin, voilà. C'est assez compliqué à expliquer. En fait, il a été, je crois, gêné énormément par Casemiro parce qu'il jouait plutôt bas, si je ne me trompe pas, le milieu madrilène. Alors que Firmino, c'est un peu le joueur en fait, qui est constamment en suspension dans la zone de demi-espace, des demi-espaces. Pardon. Et c'est vrai que même si Salah n'était plus sur le terrain, en fait, on a vu très, très peu de mouvements du côté de l'attaque de Liverpool lors des contre-attaques, en fait.
Et je trouvais que ce match de Firmino était assez bizarre, justement, comme tu disais, Ilan, parce que c'est un joueur qui aurait pu poser tellement de problèmes au Real Madrid. Si on resitue les choses rapidement, Marcelo a de l'espace dans son dos qui ne peut pas défendre et qui ne sait pas défendre, il ne va même pas faire l'effort réellement. C'est-à-dire Ramos doit décaler, mais si Ramos décale, c'est-à-dire que Varane doit prendre la place. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Varane doit aussi s'occuper de Firmino, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Firmino est dans une zone où il peut faire ce qu'il veut. Alors à ce moment-là, il faut choisir, il faut soit que ce soit Varane qui le prenne, soit que ce soit Casemiro. Mais dans tous les cas, ça demande une adaptation du Real. Et on avait même évoqué la possibilité en avant-match que Roberto Firmino ait dézoné sur un côté pour encore semer plus la pagaille. C'est-à-dire que là, Marcelo aurait été obligé de faire un certain travail défensif parce qu'on ne peut pas faire un marquage individuel sur 40 mètres. Et c'est bizarre parce que le match de Roberto Firmino, il est assez anonyme, pour moi anodin. Et j'ai de la peine à comprendre pourquoi, parce que sur le papier, ça aurait été lui, par ses déplacements, qui aurait pu forcer énormément d'erreurs dans la transition des marquages du Real. Ça demande chaque fois une adaptation. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression que le Real était extrêmement handicapé par le mouvement de Firmino.
Ouais, non, au départ, il profite de tout le boulot de Salah, en fait. Parce que tu as une occasion où il y a un débordement côté gauche, il y a un centre en retrait, et Varane est obnubilé par Salah qui coupe au premier poteau. Il y a Varane, Ramos, Salah, et Marcelo, et en fait il laisse complètement Firmino tout seul, et il peut frapper du gauche, mais il veut se remettre sur son pied droit, et du coup la défense attend de revenir, ça finit sur la frappe d'Alexander Arnold. Et c'est vrai qu'après ils auraient pu combiner à deux avec Mané, mais je pense aussi qu'ils ont eu peur du décalage aussi, parce que Lallana peut pas faire les efforts indéfiniment, quoi. Et en plus malgré ces 25 très bonnes premières minutes où ils ont vraiment gêné la relance, ils ont beaucoup, beaucoup couru. Et ça, au bout d'un moment, tu le payes. Et bon, Lallana, il revient de blessure, il me semble. Tu me confirmeras.
Oui, ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas enchaîné.
Voilà, donc au bout d'un moment, même si c'est Nacho et pas Carvajal, Nacho, il fait le boulot. Voilà, ça teste. Varane, après, a été quand même beaucoup plus tranquille. Parce que Ramos en défense centrale, c'est pas toujours super bien placé non plus, quoi. Donc il est plus dans la grinta et l'agressivité que le positionnement. Et oui, c'était bizarre que Firmino ne soit pas plus déporté du côté de Marcelo pour vraiment créer des décalages. Mais après, tu joues pour qui, tu sens pour qui, voilà. Je sais pas. Et comme t'as pas de banc, tu
Vraiment,
on avait parlé avec Ilan justement de ce vrai problème de profondeur. Et en fait, dès le coup d'envoi, quand il met le 4-4-2 Rumbo, donc diamant, ça veut Zidane se dit déjà, on sait que Bale va rentrer, quoi. On sait que Bale il va rentrer pour terminer la partie, quoi. Il sait déjà qu'il va passer dans un autre schéma et qu'il va, il va forcer la décision avec le Gallois, quoi. Non, mais alors que Klopp, lui, il a que dalle, quoi. Il a rien, quoi.
Et en plus, il se fait couper les jambes très tôt. Parce que le 6, si tu as 0-0 à la 60e, par exemple, même si les changements vont être importants, tu es encore dans le match. Là, à la 30e, ils ont déjà lâché quasiment. Et après, tu n'as que Mané qui a vraiment fait des efforts et qui a vraiment joué
sur. Ouais, ils ne lâchent pas parce qu'ils égalisent quand même. Hein.
Ouais, mais.
C'est un coup de pied arrêté, mais n'empêche qu'ils n'ont pas coulé. Moi, je pensais vraiment que.
Et moi, franchement.
Moi, je pensais déjà de base qu'à la mi-temps, le match serait fini.
Mais bon, dès que ça la sort, on n'est pas à la Mirma, j'ai pas eu non plus. Mais dès que ça la sort, je sens quelque chose qui se casse que je suis côté Liverpool. Et après, ok, Lovren va arriver à prendre Ramos de la tête, il va remettre pour Mané qui va égaliser, Mané va me frapper le poteau par la suite. Mais vraiment, j'ai du mal à revoir le Liverpool qui a été conquérant. Et dès que Liverpool s'est mis dans une genre de gestion où ils ont laissé beaucoup plus le ballon, où ils ont laissé le Real jouer son jeu, c'était pas perdu, mais il s'était vraiment tiré une grosse balle dans le pied. Après, voilà, c'est pas de leur faute, c'est sûr que Carlos soit à deux erreurs comme ça, que Bale soit éliminé par la grâce des dieux avec sa retournée, que plein de choses, on est d'accord sur ça. Mais vraiment, dès que ça la sort, il se passe un truc. Le ce qui doit éventer, ce qui doit faire vivre le Liverpool, ça s'est cassé. Après, ils ont essayé de faire leur jeu différemment, de s'adapter, de passer un peu plus en compte, de ménager la Lana. D'essayer peut-être en reculant de laisser plus d'espace à Firmino parce que s'ils appuient beaucoup, il y a peut-être moins de décalage pour lui. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont sûrement essayé de faire des trucs parce que je ne suis pas tacticien, mais je pense que Klopp est meilleur que moi. Mais en tout cas, la gestion de la suite du match les a mis dans une mauvaise posture alors qu'au début du match, ils étaient dans une meilleure posture parce qu'ils avaient un léger ascendant.
Après, c'est complètement
contre le Real. Mais il s'est passé quelque chose et quand le match bascule, le Real, tu sais qu'ils vont pas te faire cadeau.
Oui, Benjamin, pour prolonger ce que tu dis, en fait, c'est que dans ce match, en fait, Liverpool a été forcé à défendre. Ce que Liverpool ne déteste faire, en fait. Liverpool préfère avoir, comment je pourrais dire ça, le scénario du match en main. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui du match face à City à Anfield, à domicile, où en fait ils avaient marqué les trois premiers buts dans le momentum, donc en début de match, et ensuite les 60 autres minutes du match, ils avaient décidé de défendre et de tout cadenasser. Sauf que là, c'était une défense qui était, enfin, c'était un style de jeu qui a été choisi en fait. Ils n'ont pas été contraints à défendre en fait. Et c'est vrai que ce qu'a fait Real, c'est vraiment montrer qu'ils étaient supérieurs, non pas en termes de qualité technique. Enfin, bien qu'ils le soient, mais surtout en fait à les obliger à défendre, à faire ce qu'ils ne veulent pas. Et je pense que ça a vraiment joué dans la tête des joueurs.
Bien sûr, mais en plus voilà, on en va en reparler. Mais ce que fait Ramos, c'est, je pense pas qu'il veut blesser Salah, mais il veut clairement stopper cette folie qui est en train de se créer en mettant des taquets et en disant voilà, on est là, on est l'équipe, on est les meilleurs, on est les champions. Et vous allez vous calmer. Et il met les taquets, il en met un partout, il en met un Karius, il en met un peu à tout qui passait par là. Et c'est comme ça que le Real a repris un peu d'oxygène. Après, voilà, la sortie, la blessure, lui qui se tourne, est-ce qu'il fait quel bras, est-ce qu'il veut lui arracher l'épaule? Moi, je pense pas. Après, voilà, on sait qu'il traîne une réputation particulière. On sait que ce qu'il fait, c'est particulier, c'est sujet d'interprétation, son mouvement du corps, son mouvement du bras. Mais vraiment, ce que fait Ramos, c'est ce que, par exemple, a pu faire Varane contre la Juventus quand ils prennent un peu l'eau contre au Bernabeu au retour. C'est voilà, c'est mettre des taquets pour couper le rythme, pour couper ce qui est en train de se créer et essayer de reprendre la main. Et c'est ce qu'ils ont fait après par la suite. Et vraiment, ce que fait Ramos, c'est vraiment important et c'est déterminant pour le Real.
Oui, et puis c'est un duel. Hein. Ils sont deux sur le ballon, si tu veux. C'est pas non plus un tacle assassin. Hein. Là, il joue à deux le ballon. Il y en a un qui essaye de passer l'épaule. Hein, et Ramos, il est intelligent. Et donc, il embarque tout. Et au final, je pense pas qu'il veut lui faire mal. Hein, mais bon, le problème, c'est que.
Il veut pas lui blesser, je pense.
Oui, mais il sait ce que Lovren a fait à Ronaldo en début de match.
Bien sûr, non,
mais. Parce qu'à un moment, Ramos, il a beaucoup de défauts, mais il se rend vite compte que c'est plus possible parce que ça là, ça devient beaucoup trop gênant et ça crée trop de brèches et donc il faut aller le calmer. Il lui met un brin. Je pense pas qu'il va le blesser, mais il sait faire mal, quoi. Donc Je pense, Lovren a fait exactement la même chose sur Ronaldo. Dès la 30e seconde, il allume un peu. Et oui, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça l'apprend. Voilà, c'est pas beau, mais bon, ça se passe comme ça. C'est une finale de Coupe d'Europe. Hein. C'est pas.
Le défenseur, Thiam nous avait dit ça. On avait fait le podcast sur la Previa C3. Il y avait des fois des entraîneurs qui demandaient de mettre des gros taquets d'entrée pour s'imposer. Et Ramos, ça peut faire d'entrée parce que ça, même si on a mis d'entrée, ça l'a quand même joué, a quand même essayé de jouer son jeu. Mais il met des taquets pour s'imposer physiquement et susciter la crainte, comme ce qu'a fait Lovren sur Ronaldo. C'est que tu essaies que le défenseur prenne l'ascendant sur l'attaquant en lui imposant de la crainte et en sachant que le défenseur va venir dans son dos et va mettre des brins. Et il l'a fait. Et bon, après, voilà, c'est dramatique, c'est dramaturgie.
À propos de Lovren, est-ce que c'était pas lui le meilleur défenseur central de la finale?
Oui, alors moi, c'est vrai que moi, j'ai très peu, d'estime pour ce joueur, mais je reconnais vraiment qu'en défense, c'était avec Robert Robertson qui était pas mal en phase offensive, c'était vraiment le seul en fait qui surnageait en défense. Oui, tu as raison. Parce que Van Dijk, je ne l'ai pas vu, alors que c'est lui normalement le patron de la défense et qui est là à la relance. Et on a vu très très peu de relances propres depuis l'arrière.
Et Lovren, justement, Lovren a aussi relancé et a aussi dépassé ses fonctions.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire.
C'est lui qui va chercher Ramos de la tête sur l'égalisation. Ouais. Alors là aussi, très mauvais. Alors là, il y a sur le but de Mané, il y a Ronaldo qui laisse complètement échapper. Mané, il s'en occupe absolument pas. Et puis après, Mané, il s'est très très bien placé. Il est déjà devant Marcelo. Voilà, il a suivi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour l'oublier en fait. Mais là, c'est Ronaldo. Ça aussi, ça contribue à son mauvais match. Hein, parce qu'il ne s'en occupe pas du tout. C'est devenu le seul élément perturbateur offensif des Reds. Et lui, ni Marcelo, il y a Benzema aussi qui prend un poteau. Enfin, c'est surtout pour de la tête, on pense plus à Ronaldo pour les défendre. Et bon, voilà, je sais pas. C'était très étrange. Donc au final, ouais, Lovren, c'est quand même a surpris, on va dire.
Oui, c'est ça.
On l'attendait tellement pas. Ça a joué au football et être intéressant dans une finale, ça nous a tous surpris, ce qui est normal.
Et puis aussi, il y a ce. Avant, on va terminer sur le but là, on appelle ça la papinade de Gareth Bale. C'est au terme d'une action qui fait 20 passes hein, quand même. Oui, ils cherchent à faire leur U traditionnel, à passer des deux côtés, et ça passe par Modric à droite, et Modric il y a une. C'est Benitez qui ne met pas les extérieurs du droit de Modric parce que c'était trop de risques. Mais c'est ce geste-là qui va ouvrir le chemin à Casemiro notamment, qui a failli perdre le ballon, mais enfin ils s'en sortent quoi. Et Modric chef d'orchestre absolu quoi, j'ai trouvé. Enfin, bon, voilà, c'est. Puis Bale aussi quand même, c'était assez surprenant de le voir même remplaçant cette finale, entrer en jeu, parce qu'avec toutes les histoires de bouderie, de fâcherie, de il est pas content, de il veut partir. Eh ben Zidane, il l'aligne et c'est lui qui le fait gagner le match quoi. C'est assez, il le fait gagner le match tout de suite. C'est-à-dire qu'il claque, après il y a ce bon, après c'est, là aussi ils égalisent, il y a le retourné. Là les mecs se disent d'un côté t'as ceux qui disent bon, il va rien nous arriver. On le voit quand la façon dont ils exultent les joueurs du Real. Comment ils savent que bon là ça va être Liverpool, tu prends un but comme ça. Et je pense que Karius, ça lui reste dans la tête parce que Karius il est pas mal placé hein, sur la frappe. C'est tellement soudain que.
Par contre, tu dis quelque chose d'intéressant sur la possession en U. C'est une possession qu'on dit que c'est la possession un peu sans idée, qui a pas vraiment d'intérêt parce que une possession en U, c'est facile, ça tourne en rond, on attend le décalage. Mais par contre, pour ce coup-là, cette possession en U a vraiment embêté par la suite Liverpool parce qu'ils aiment beaucoup faire, comme tu l'as dit là au début. À faire venir les joueurs qui sont dans le jeu sur les côtés. Et le Real a l'habitude de faire ça. Et a l'habitude d'écarter ses créateurs pour qu'ils soient sur les côtés. et après que ça centre. Et là, la possession U, comme le fait le Real habituellement, a vraiment embêté par la suite Liverpool parce qu'en fait, leur plan, ils ont l'habitude de faire pour mettre en difficulté leur adversaire. Là, c'était le jeu du Real. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à, comme tu l'as dit sur le coup, à trouver le décalage et à être dangereux.
Oui. Oui, cette possession, c'est assez drôle qu'elle déboule sur un but parce que généralement, c'est le genre de possession qui est assez infructueuse, qui amène un centre, mais un centre fait dans de mauvaises conditions avec un joueur dans la surface à la réception qui n'est pas dans des conditions idéales non plus. Et pour en revenir à cette possession en U, c'est assez intelligent la manière dont le Real l'a utilisée parce que les longs changements de jeu dont sont coutumiers des joueurs comme Kroos par exemple ou Modric, ils ont fait beaucoup de mal à Liverpool. Ils ont utilisé cette possession U pas seulement pour attaquer mais aussi pour se défendre, dans le sens où chaque fois que vous effectuez une transversale comme ça, vous savez qu'avec la qualité qu'il y a dans les pieds de ces joueurs, elle va arriver à destination, mais ça force Liverpool à devoir coulisser de nouveau, à devoir reprendre les marquages, à devoir refaire attention aux espaces, à devoir reprendre... On va dire, c'est reprendre quelques repères et quelques secondes après, vous refaites transiter le ballon de l'autre côté du terrain. Et à partir de ça, le Real, qui n'était pas pressé au passage, ils étaient dans une situation assez confortable, ils ont réussi à faire courir Liverpool énormément, à les faire transiter d'un côté à l'autre du terrain. Et une fois, quand ils ont eu l'occasion, ils centrent et ça fait goal. Et ce qui est assez incroyable sur ce but, c'est que Marcelo, il fait un crochet, il centre du pied gauche. Le centre, c'est-à-dire que s'il est du pied gauche, il va être sortant. Donc c'est un centre, en théorie, il n'y a aucune raison qu'il soit repris. Parce que même pour la tête d'un joueur, quand vous avez un centre sortant à cette hauteur de la surface de réparation, vous êtes assez loin du but encore, c'est très difficile de mettre une tête, c'est très difficile qu'elle prenne le chemin du but, qu'elle trompe le gardien. Il n'y a aucune raison.
Elias, il frappe. Elias, il frappe rentrant. Il frappe pied droit.
Non, c'est sûr qu'il frappe pied droit ?
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et en fait, c'est Mané et Alexander Arnold qui défendent sur lui. Et les deux. Anticipe le débordement, surtout le latéral. Mané, il est un peu court et en fait il frappe pied droit et le ballon est pas forcément bien touché parce que pour aller le chercher là-haut, il est en arrière par rapport à Bale déjà parce que sinon il claque pas ça. Il passe spécialement. Ouais, c'est quand même un centre de Marcelo donc il a pas envoyé un parpaing quoi. Mais il est pas facile là, il est pas forcément top, je veux dire, c'est pas un 24 carats qu'il envoie, c'est juste un 18.
Tant pour moi.
Ouais, et puis Bale, en fait, ils sont pas méfiés les deux centraux et ils l'ont laissé avec 1m50, 2m de marge en retrait et ça a suffi. Donc,
vraiment, la claquer comme il fait. Il n'y a personne qui croit qu'il va réussir à la toucher, à bien la toucher, à la faire un peu flottante, lobante pour tromper Karius, parce que vraiment, ce but-là, il sort de, je ne vais pas dire de nulle part. Mais c'est vrai que tu ne t'y attends pas quand tu vois le Real s'empêtrer dans ses changements d'aile, parler à trouver des calages, parler à trouver de situations, de centres, machin, chose. Vraiment, ce geste, là, que tu l'as dit, c'est là qu'on voit que Zidane, c'est vraiment excellent meneur d'homme, il a vraiment une emprise mentale sur ses joueurs parce que Bale il est sur le départ, on le sait tous, on le voit sur le terrain.
Dès la fin du match, il l'a dit. Hein.
Voilà, mais ça sent qu'il est sur le départ et pourtant il rentre à la 60e, il est ultra concerné d'entrée. Donc c'est... Après, ok, c'est une finale des champions, ok, c'est plein de choses, mais vraiment avoir un mec qui est si proche de la fin de son histoire avec le Real, être aussi concerné à ce moment-là et que ça soit en plus. C'est lui le premier vrai choix parce que le changement Carvajal-Nacho, ce n'est pas un choix. C'est un fait de jeu, c'est une blessure, c'est une chose. Là, c'est le choix de Zidane, c'est de faire rentrer le mec qui a le plus de choix, qui va partir alors qu'il a Asensio, alors qu'il a Vasquez sur le terrain. Il avait ce que depuis le début du match, tu l'as dit avec sa compétition, sa volonté de faire rentrer Bale, il fait rentrer et il est décisif. C'est vraiment excellent.
Alors, on est presque à l'heure. On va terminer sur. Notamment sur Gareth Bale. Comme tu dis, va partir. Alors, est-ce que vous croyez que quand Florentino Pérez doit serrer la main, que ça fait gling gling comme une machine à sous? Parce qu'au final, Gareth Bale, il a été inconstant, il a souvent été blessé, souvent critiqué. Mais là, Décima, il fait quand même un très, très gros match. Et celle-là, il met deux buts. Sur les quatre dernières, il y en a deux où il est quand même artisan et plus qu'artisan des victoires madridistes. Et aussi, est-ce que Ronaldo, quand il voit la bicyclette, il se rend compte que ce match-là, il ne le marquera jamais. Enfin, il sait très bien que déjà, sa bicyclette à lui contre la Juve, et que Gareth Bale, il se met au niveau de Maguire et de Zidane. Quoi. Et ça, et Ronaldo, il n'est pas bête, il le sait. Hein.
Il le sait. Non, mais après, j'ai peut-être pas le sens de l'histoire d'Elias, mais c'est son histoire avec le Real, c'est en particulier entre la prise de muscle, entre les blessures, entre le but sur Bartra, entre ce but-là, entre plein de choses. L'histoire de Bale au Real sera particulière. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, je ne sais pas. Il, à mon avis, il aura marqué les esprits et il va rester comme un nom qui sera encore claquant pour beaucoup de choses parce que il aura marqué des buts qui ont remarqué les esprits des plus jeunes et des plus anciens, mais il aura marqué des buts qui va rester dans l'imaginaire des gens. Donc je pense que pour beaucoup, peut-être dans 5-6 ans, son passage sera peut-être pas si mauvais que quand on le dit là maintenant, parce qu'on l'a vu pas vraiment à l'aise en Liga, pas vraiment à l'aise dans les petits espaces, souvent jouer à contre-courant, pas vraiment dans son style, lui qui adore attaquer les espaces, qui adore galoper, qui adore courir, qui adore porter le ballon. Il a eu beaucoup de mal à le faire dans certains matchs de Liga. Donc c'est vrai qu'au quotidien, son histoire est particulière, mais vrai qu'il a été intéressant dans les grands matchs, il a marqué des très beaux buts. Donc il a été toujours un homme intéressant, qui a toujours montré de la détermination et qui n'a jamais déjoué, qui n'a jamais vraiment concentré son match parce que mentalement pas dedans. Donc son histoire avec le Real sera c'est particulier, vraiment.
Oui, mais plus à l'aise dans les matchs européens que dans les matchs espagnols au final.
Ouais. Moi pour l'avoir vu jouer depuis un certain moment, c'est vrai que moi quand il est arrivé au Real, c'est vrai que ce qui m'a un peu je vais pas dire choqué, mais c'est plutôt son utilisation en fait par rapport à son poste, parce qu'il était souvent utilisé côté droit, si je me trompe pas, même dans la finale là, il était côté droit. Je crois que c'est ça, non? Il est rentré côté droit.
Oui, il est rentré côté droit, oui. Ouais. Alors qu'on sait que quand il est à droite, ben, il est beaucoup plus limité que quand il joue à gauche.
Oui, c'est ça. Ou alors, à la limite, il peut rentrer avec son pied gauche et tirer. Mais c'est vrai que quand il jouait à Tottenham, en fait, il jouait en 9,5. Et en fait, il profitait beaucoup des espaces qu'il y avait entre la défense centrale et la ligne des milieux. Pour ensuite récupérer le ballon, se la pousser et tirer comme ça. Et c'est vrai que moi, quand je le voyais quelques fois jouer au Real, où il devait recevoir la balle et la repasser juste après, je voyais quand même que ça ne lui convenait pas. Quoi.
Bah, après, les gars, le gros souci de Bale au Real, c'est qu'il y a Cristiano. C'est Cristiano. Le jeu est axé sur lui et Bale est cantonné comme un peu Benzema, c'est-à-dire à jouer pour Cristiano. C'est ça aussi qui fait qu'il déjoue. Parce que dans les systèmes, c'est pas lui qu'on met en avant.
Après Benzema, je vais laisser Elias parler parce que je vais te dire, mais Benzema aime faire ça, sait faire ça.
Oui, il le sait, mais Bale, non. Bale, on voit que ça lui...
Justement, tu soulèves un dernier point qu'on va aborder sur ce débrief. Est-ce que il n'est pas temps pour Ronaldo de... Alors, peut-être pas de partir, mais de comprendre qu'il ne pourra pas... C'est toi, Elias, qui avait dit sur Twitter que Ronaldo, il est bon que 3 mois, en fait, et que c'est pas suffisant pour davantage, quoi. Soit il faut forcément un backup, il faut qu'il comprenne lui aussi que, il est plus aussi indispensable au Real, parce que dans le jeu, toutes les décisions qu'il a prises dès qu'il a eu du champ, c'était une catastrophe. Il a plus le coudrin, quoi. C'est terrible.
Ouais, il se regardait jouer hier. Pas hier, samedi, il se regardait jouer, c'est-à-dire que on le voit sur plusieurs actions, hein, il fait pas la passe parce qu'il veut marquer son but. Hein. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est le moment de partir pour lui.
Mais disons que j'ai bien l'impression, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai bien l'impression que actuellement, pour on va dire la saison à venir, Ronaldo a davantage besoin du Real que le Real de Ronaldo.
Tout à fait.
Cristiano Ronaldo, ça a été une page immense de l'histoire du Real. Ils n'auraient jamais réussi à gagner tous ces titres sans lui, c'est clair. Mais actuellement, il demande beaucoup de choses. Il demande beaucoup d'adaptation. Ronaldo, il a énormément de difficultés à jouer sans Benzema. Et ça, c'est pas seulement de cette saison, depuis cette saison qu'on le voit. On le voit depuis plusieurs saisons. Mais cette saison, ça devient patent. Ça devient absolument criant que sans Benzema, il a beaucoup plus de peine à jouer. Ça demande aussi que toute l'équipe tourne autour de lui. Ça demande que... On est des joueurs qui jouent pour lui, on est des joueurs qui qui dans les derniers mètres doit faire le champ en levant la tête pour essayer de le servir, et il y a beaucoup de contraintes, et au final le bénéfice qui est en retiré, il est immense durant 3 mois de l'année en Ligue des Champions, mais durant le reste de l'année c'est compliqué. Durant le reste de l'année, ça ne permet pas forcément d'aller jouer en Liga, ça ne permet pas forcément d'autre chose.
Elias, je m'adresse aux spécialistes du Real Madrid que tu es. Le Real Madrid n'a jamais été le Real d'un entraîneur. C'est-à-dire, c'était le Real de Di Stefano, le Real de Yeye, l'époque de 66 avec Rento. Il y a eu la Quinta, il y a eu le Real des Galactiques. Mais on n'a jamais dit le Real de Munoz, on n'a jamais dit le Real de Del Bosque. Est-ce que maintenant, on peut dire que c'est le Real de Zidane, réellement?
Bonne question. Sur le management, oui, je pense, parce que ça devient exceptionnel la manière dont tu gères ces joueurs, ça va au-delà de tout entendement. On a vu par exemple à l'Atlético que certains joueurs acceptaient de faire du banc malgré leur statut, mais au Real c'est encore la catégorie en dessus. Ils acceptent de faire du banc alors qu'ils seraient titulaires, même dans l'équipe en face qui joue la finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas énormément de temps de jeu certains alors qu'ils en mériteraient plus, et dès qu'ils rentrent ils sont bons. Même des joueurs comme Mariano pour la saison passée, même des joueurs comme Borja Mayoral ont marqué des buts alors qu'ils ne jouent jamais. Le management de Zidane est assez incroyable dans ce sens-là, et oui, je crois qu'on peut dire que c'est le Real de Zidane.
Mais moi je suis d'accord sans être d'accord. C'est pas le Real de Zidane parce qu'on ne voit pas vraiment de patte dans le jeu, on ne voit pas un Real particulièrement intéressant avec le ballon, on ne voit pas, quelque chose qui se dégage dans ce Real. C'est un dégage qui est un Real qui est classique, insipide. C'est pas un Real qui est intéressant à voir jouer. Mais par contre, c'est vraiment. Je pense que Zidane, il connaît magnifiquement la maison, mais je pense que Zidane a compris que le Real ne doit pas être bousculé par des idées de jeu, par vraiment un truc marquant. Le Real doit gagner, le Real doit faire confiance à ses staffs et doit leur donner énormément de liberté offensive. Je pense que c'est ça qui est bien à Zidane et qui est très intéressant, c'est que. Il gagne des titres, et en même temps, il fait confiance à ses joueurs. On a vu qu'il a fait à Cristiano Ronaldo, en même temps, il arrive à dégager. Il y a une manière d'entraîner, de coacher, de faire avec ce Real qui est vraiment intéressant et qui colle avec le Real. Parce qu'on ne voit pas un Real de Zidane dans le jeu, on voit un Real de Zidane dans le match. Mais dans le jeu, on voit.
Oui, mais ça, Ben, le Real n'a jamais eu de doctrine de jeu. Hein, donc, au final.
Ils vendent des jeux, ils vendent des titres. Le Real te vend des titres et te vend une équipe qui gagne quasiment tout ou qui est capable de gagner tout. Et c'est ce qu'il fait, il gagne des titres et il gagne en plus. Les titres qui collent le plus à la peau du Real, c'est le champion. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, plus, c'est sa manière qui se place, parce qu'il n'est jamais. Dès qu'on veut lui parler de lui, il dit non, moi je ne suis pas grand-chose, c'est les joueurs, non, c'est ça, non, c'est ci. Il colle vraiment avec le type du Real. Et puis, c'est pas vraiment surprise quand on sait ce que c'est le Real.
Et puis aussi, ouais, ce qui est assez frappant, c'est que le Real en fait répond toujours à l'enjeu. Je veux dire, quand on a vu le Real jouer face à Tottenham plutôt lors de la phase de poule, Tottenham qui a un jeu qui est plutôt similaire à celui de Liverpool, on n'a pas vu le même Real. Je veux dire, face à Tottenham, ils se sont laissés faire parce qu'il n'y avait pas forcément de l'enjeu au bout des deux rencontres. Mais là, on a vu un Real qui dominait parfaitement son match.
Pour conclure, on va finir sur Asi Ganal Madrid, évidemment. Pas forcément de style prédéfini, mais toujours cet appétit de victoire et qui fait sa marque et qui fait que avant le match, on pensait qu'ils gagneraient et finalement, ils ont gagné parce que c'était presque quelque chose de décrit finalement, malgré tous les efforts, des Reds. Avant de passer à la Segunda, Ben, un petit mot sur le chat.
Oui, Paul, ne t'inquiète pas, on te lit. On n'a pas souvent parlé de toi sur le live, mais on te lit, ne t'inquiète pas. Et moi, je te lis parce que c'est pour moi qui t'allais
répondre. On t'entend très très mal, Benjamin. Ouais. On va passer à la Segunda. Idan, tu peux rester.
Je pense que non, je vais plutôt partir parce que je ne vais pas vous servir à grand chose.
Il y a le quiz, après tu veux faire un petit Angleterre-Espagne.
Allez, c'est parti alors.
on va faire un petit point. On a juste un petit quart d'heure de retard, ce qui est un peu la routine chez nous. Mais bon, c'était la décimo tercera, il fallait quand même faire un large débrief. Le Rayo Vallecano est de retour en Liga, Jay. C'était attendu, mais ça a mis du temps finalement. Puis bon, ça valait quand même le coup que ce soit Vallecas.
Oui, la fête était encore plus belle, on va dire.
Avec les, après, nous, après, les 40, après les 40 000 euros qui ont été piqués deux jours avant. Allô? Ouais, t'es pas au courant, il y a des mecs qui ont piqué 40 000 balles dans la caisse.
Allô? Alors, non, mais bah, tu me l'apprends. Ouais, ouais.
C'est fou des quartiers. C'est incroyable.
Wow, 40 000 balles, ça va. C'est pas...
quand tu sais que Ramos sur un projet immobilier va en perdre 66 millions.
Non, mais ouais, c'est pas le cas. Même la somme n'est pas grande. Alors que c'est un club qui va monter en Liga. Vous que tu rapportes les caisses du club. Non, mais c'est le Rayo Vallecano.
Ouais, de toute façon, bon, la fête était belle hier, mais bon, on le savait depuis quelques temps déjà que le Rayo allait monter. Hein. C'est pas une surprise non plus. Hein.
C'est sûr. Mais on pouvait avoir un essoufflement, une petite.
Non, fouille. Ça a été quand même les plus réguliers. Enfin, oui. Voilà, Huesca monte, mais regarde, comme hier, on voit bien que bah, ça y est, ils ont lâché, là. Ils perdent contre le Nastic, qui en plus joue le maintien. Enfin, ça fausse un peu le bas du classement, mais bon. Voilà, c'est la Liga Undostales, que veux-tu. C'est chaque week-end, on a son lot de surprises. Et jusqu'à la fin, ben, on va encore flipper pour les derniers et puis espérer pour les 10 premiers, quoi.
Parce que hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la 41e et avant-dernière journée de Segunda, la saison régulière, donc avant les playoffs. C'était un multiplex. En Espagne, il y a eu deux matchs diffusés. À la télé, c'était Saragosse à Valladolid, le 4e contre le 5e. Et, ouais, et sur le canal internet, c'était, je crois que c'était Cultural Leonesa contre Oviedo.
Beau match aussi. Ouais,
beau match. Alors, toi, tu adores l'entraîneur. On va baptiser un peu. Demain, il y a ton nom de Segunda qui sort. T'as mis l'entraîneur de la Cultural Leonesa qui n'est pas encore sauvé officiellement, même si c'est quand même bien engagé.
Non, mais bon, ouais, c'est ça. En fait, bon, on espère quand même le maintien pour eux, parce que quand on en avait déjà parlé avec Elias, c'est vrai que c'est un jeu qui est proposé, qui est un petit peu, on va dire, différent de ce qui se propose généralement en Segunda, qui est un peu plus physique, où il y a beaucoup d'efforts, ça rentre un peu dedans, ça. Et eux, ils ont réussi à avoir un jeu très très fluide, très très posé, et ils n'ont pas changé de philosophie même quand c'était au plus mal, quoi. Et puis là, tout doucement, bah, ils remontent et ils sont plus relégables. Donc c'est vrai que c'est le meilleur moment d'ailleurs pour ne plus l'être. Donc j'espère pour eux un match et les revoir l'année prochaine.
Il y a un club qui descend sur, c'est le Barça B.
Oui.
Qui n'a pas pu gagner contre l'AC. À force, on a cru au miracle parce que ça revenait bien.
Ouais, Pimienta a remis de l'ordre. Le souci, c'est qu'ils partaient de trop loin, quoi. C'est toujours pareil quand on part de trop loin avec les erreurs du passé. Et ben voilà, on cale à 3-4 points, mais on cale quand même, quoi. Donc en espérant pour que Barça B le remonte l'année prochaine.
Il y a eu des résultats assez incroyables. Nouman, c'est ton équipe préférée qui a perdu contre Sevilla Atlético.
Dis pas trop, il faut pas trop dire ça, hein, parce qu'il y en a qui le prennent
en premier degré. Oui. On a reçu un tweet, il ne pouvait pas savoir que c'était une private joke non plus, mais bon, c'est via Tupou qui est peut-être la pire équipe de championnat, mais qui laisse la dernière place à Lorca, qui a perdu contre l'Osasuna. Et Osasuna qui a vécu une drôle de soirée, parce que tant qu'il y avait 3-1 à Saragosse, Valladolid, ils étaient 6e et donc qualifiés. Et sauf que Valladolid a quand même arraché le 3-2. Donc Saragosse, il y a eu deux pénalties et c'est un triplé de Borja Iglesias, donc à la Lomadera, qui était en feu. Et donc ce but-là remet Valladolid 6e. Et là, pour l'instant, c'est complètement fou, parce que 5e, alors les deux qualifiés sûrs, c'est Sporting et Saragosse, qui ont gagné leur match. Ils sont sûrs d'être en demi. Cadiz, 5e, 64 points. Real Valladolid, 64 points. Osasuna, 64 points, et donc séparé par un seul but, parce que la différence de but particulière s'annule. Numancia 62 points, Oviedo 62 points.
Voilà, on est 9. Enfin, donc, les
4 places pour 2.
4 places pour 2 points.
Ouais, c'est ça. Donc, ça va être compliqué jusqu'à la fin. Ça fait plusieurs mois aussi qu'on le dit. Hein. De toute façon, ça se joue vraiment souvent à la dernière journée. Et il y a des chocs qui vont valoir le coup. Hein.
Donc, il y a Valladolid ou Sassuna.
C'est ça.
Qui forcément, c'est celui qui. Enfin, Osasuna est dans l'obligation de gagner, du coup. sont obligés de gagner, parce que si on match nul, ils sont dehors, tout simplement.
Et oui.
Ah non, non, je dis oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans l'attente de à différentes vues particulières, ils sont obligés de gagner. Il y a Oviedo Huesca.
Alors voilà, Huesca, est-ce qu'ils vont pas, arriver avec. Huesca va peut-être arriver avec les claquettes. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'Oviedo devrait récupérer les 3 points. Donc, à voir maintenant ce qui va se passer devant. Hein. Bon, Oviedo n'a
Cadiz
plus son
destin.
Ouais, non, on n'a plus son destin.
Cadiz est bien aussi. Hein. Cadiz est bien aussi parce qu'ils vont à Grenade, mais bon, ils auront la fissionne avec eux parce que c'est un derby.
Et le derby. Ouais, mais Grenade voilà, veut pas la perdre non plus. Donc ça reste un derby. Oui. Donc Grenade va jouer le jeu.
Cadiz, franchement, sur cette fin de championnat, Cadiz, c'est quand même. Ça tire la langue. Hein. Ça a vraiment du mal à finir ses matchs, à marquer des buts. Donc ça ne serait pas étonnant de les voir craquer maintenant. Quoi.
Ah, c'est la poisse d'Alvaro, c'est Albero.
Après, en bas, il y a aussi un duel. Il y a aussi un duel andalou à distance entre Cordoue. Qui reçoit le Sporting et Almeria qui se déplace à Lugo. À l'heure actuelle, c'est Almeria qui est dans la charrette avec 47 points et la charrette qui pourrait aussi les amener à la disparition, je pense. Ils ont énormément de problèmes d'argent assez régulièrement, donc ils sont en Segunda B, ça leur fait très très mal. Albacete est le promu, 48 points. Cultural, 48 points. Córdoba, 48 points. Nastic et Alcorcón, 49 points. C'est un problème pour Alcorcón, 14e, et sous la menace. Il va falloir quand même.
En fait, quand tu regardes, t'as 3 clubs qui sont voilà, maintenant sûrs de ne plus rien jouer. T'as Reus, Lugo, Tenerife et Granada. Après le reste, tout le monde joue quelque chose.
Ouais,
c'est bon, à parler de premier, quoi. Mais c'est vraiment incroyable. Parce qu'après, même dans les. Tu parlais du Sporting et de Sarlago, ça. En fait, c'est important pour eux aussi de se positionner et de gagner. Notamment la petite rencontre entre les deux, parce que en fait après ils jouent pas, donc ils ont comment dire l'avantage du terrain et de l'adversaire, donc il y a aussi une petite voilà rivalité entre le Sporting et Saragosse.
Le Sporting a besoin d'un point parce qu'il risque de recevoir 2 fois au retour.
Voilà. C'est la grande réussite de cette fin de saison. Ils sont en train de remonter, ça tient avec des joueurs qui s'affirment. Borja Iglesias qui a quasiment une place garantie en Liga la saison prochaine au vu de ce qu'il est en train de montrer. Et cette équipe-là, elle est en train de surprendre son monde, vraiment.
Avant de terminer là-dessus, on fait un point sur les playoffs de Segunda B, puisque ça s'est décidé. Il y a deux nouveaux clubs, les deux. On a 2 promus. Le Rayo Majadahonda qui a gagné 1-0 à la maison contre Cartagena.
Ça, c'est une surprise.
Ouais, qui l'emporte au nombre de buts à l'extérieur parce qu'ils avaient perdu 2-1 là-bas. Ouais. Et Mallorca qui fait l'ascenseur en Segunda. Ils ont gagné 3-1 à San Mauric et ils ont fait 0-0 hier à Mirandès. Ouais, j'ai regardé vite fait le match. Il est un peu en fond sonore aussi. Bon, voilà, c'est pas surprenant à 3. Bon, 3-1, ça restait quand même. Très compliqué pour Mirandès.
Ça aurait été une incroyable surprise.
Donc les perdants, Cartagena et Mirandès, se retrouvent dans la deuxième branche des playoffs.
C'est ça. Et donc ils jouent contre les moins bien classés qui sont qualifiés. Parce que ça marche encore comme ça. Ils sont encore favoris. Hein. On va dire. On appelle ça. J'ai perdu le nom. Dans les tirages au sort, on est tête de série, voilà. Donc, il y a Extremadura, Mirandés, et puis Cartagena, il joue contre Celta B.
C'est ça qui a battu au penalty, au tir au but, Malvel. Il y a Extremadura, ils ont retiré une sacrée épine du pied à la Fédé parce qu'ils ont sorti le Deportivo Favorit, qui est la réserve du Deportivo. Et ils avaient très, très peur que. Qu'au final, ils jouent un peu pour du. Enfin, ils jouaient pour du beurre, de toute façon, le Deportivo Fabril. Parce que dans la mesure où le Deport descend, la réserve ne peut pas accéder à la Segunda. Donc, ils sont quand même très contents que le club extrémeigne se soit qualifié. Donc, ça contre mon Mirandés.
Il y a toujours le Sporting B. Hein.
Oui, exactement. Ils vont jouer Elche. Elche qui a sorti Murcia dans un derby du sud-est. De l'Espagne. Et le Sporting B a sorti Cornelia. Et donc, eux, ils sont toujours. On ne sait pas s'ils pourront monter, parce que Le Sporting est toujours en Segunda et donc il faudra attendre, les résultats aussi de la A. Résumé de leur des autres matchs, donc Extremadura Mirandés, Fuenlabrada, le club de la banlieue de Madrid, le club la ville natale de Fernando Torres affrontera le Villarreal B, qui s'est fait une petite frayeur à la maison en perdant contre la réserve contre le Bilbao Athletic, la réserve de l'Athletic, Elche Sporting B et Celta B Cartagena. Voilà, donc ce qui serait assez humiliant quand même pour le Depor aussi, c'est que le prochain derby ce sera contre le Celta B en Segunda. Ça serait, ça sera assez terrible pour ce club-là. Pour être tout à fait complet, demi de la Copa de la Reina qui se disputait à Reus la veille du match justement de Segunda devant un public clairsemé. L'Atlético de Madrid l'a emporté contre l'équipe de Tenerife.
C'est ça.
À 90e, 93e, les buts. Donc voilà, c'était le dernier carré, c'était les quatre équipes de tête. Hein.
Oui, oui. Bon, c'est un beau parcours, un beau parcours des filles de Tenerife.
Et puis l'Athletic a perdu au pénalty contre enfin, tir au but contre le Barça. L'Athletic avait qui avait un tir au but d'avance. C'est Tony Dugan qui avait raté sa frappe. Et finalement, Sandra Pagnos, la gardienne du Barça, a sorti une frappe et une qui est allée sur le poteau, je crois, de mémoire, je ne sais plus. Mais voilà, donc on se retrouve avec. L'Atlético de Madrid, double champion d'Espagne, contre le Barça, quart finaliste de la dernière Ligue des Champions contre Lyon. Donc voilà, finale rêvée, dans un cadre qui n'est pas rêvé du tout, parce que ce sera à Mérida. Et ça, il faudra quand même expliquer à quel moment les mecs ont décidé de faire des quarts de finale en aller-retour, des demi à Reus et de la semaine suivante aller à Mérida, c'est-à-dire à l'autre bout du. Alors Reus en Catalogne, Mérida c'est quasiment Portugal. Hein. C'est pour fixer un peu les trucs, c'est à l'autre bout du pays et pour j'ai voulu y aller. Bon, voilà. Disons que la vie est trop courte pour se taper Valence Mélida, c'est incompréhensible, mais bon. Il y a dû y avoir il y a eu les élections il n'y a pas longtemps à la fédération, alors peut-être que ça a dû jouer, il y a des petits cadeaux qui se sont faits entre amis et que Mélida d'ailleurs qui joue des play-offs de descente, je crois, au même moment. Enfin bon, voilà, c'est un peu. Le football espagnol dans toute sa splendeur. Donc, en espérant que ce soit une belle finale avec deux Françaises, Aurélie Cassi du côté de l'Atlético de Madrid et Edith Bustaglia du côté du Barça. Mmh. Voilà. Alors,
il y a aussi les playoffs qui se jouent en Tercera et c'est vrai qu'on a parlé dernièrement sur Furia Liga de plusieurs clubs de Tercera et notamment donc CD Castellón. Qui a gagné donc 4-1 et qui donc va passer le et donc va jouer le deuxième tour, ainsi que Orihuela. Et puis, on en avait parlé d'un autre, mais je l'ai plus en tête.
Des équipes de chez toi, Tenerife, non?
Alors, tu remues le couteau dans la plaie. Donc, en fait, ouais, Tenerife a été éliminé par l'Internacional de Madrid. Donc, 1-1 au match retour, sachant qu'ils avaient fait donc 0-0 au match aller. Et bon, alors, grosse polémique encore, ça s'est joué à l'Elio Dolo. Donc, en fait, devant 5-6 000 personnes, et encore, je suis gentil, les joueurs n'avaient plus de repères. En plus, un but annulé. Alors qu'il était valable, voilà, tout était contre Tenerife B. Donc maintenant, ils sont partis pour rejouer deux matchs de barrage parce qu'ils sont reversés. Et donc, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc il reste plus que deux clubs canariens.
On compte sur toi pour nous tenir au courant de tout le football.
J'essaie. Ouais, c'est vrai que. Et puis moi, c'est vrai que la Tercera, c'est sympa aussi de regarder. Et il y a toutes les télévisions maintenant. Enfin, c'est pour faire de la pub, hein, mais c'est Footers qui paye les matchs. C'est quoi? C'est 2,90€
Ouais, c'est du pay-per-view. C'est
ça. Super. Bon, c'est sympa. C'est assez champêtre.
Et pour être tout à fait complet sur le football insulaire, Las Palmas a un nouvel entraîneur, c'est Manolo Jiménez.
C'est ça.
Qui a été champion de Grèce avec l'AEK cette année, après je ne sais plus combien d'années de dette. Il a aussi entraîné le Sevilla Atlético il y a plusieurs années. Il travaille notamment avec Joaquín Caparrós. Et à propos de Séville, Pablo Machín vient officiellement de signer 2 ans avec les Palanganas. Et donc Girona est à la recherche d'un coach, parce qu'elle perd son entraîneur emblématique qui était là depuis 5 ans. Voilà, pour être tout à fait complet. Nous sommes dans les arrêts de jeu de ce podcast. C'est lors du quiz. Alors, Soledad Arquet-Vasquez n'est pas là. Elle s'en excuse. Donc, c'est moi qui vais faire le master of ceremony. Alors, comment fait-on les équipes? Est-ce que chacun pour soi? Est-ce que c'est Ilan contre le reste de l'Espagne? comment vous voyez ça?
Chacun pour soi.
Ouais.
Alors,
mais Benjamin, c'est le Cristiano Ronaldo du podcast. Il ne veut pas être passé décisif, il va le mettre tout seul. Très bien. Vous pouvez aussi faire une coalition contre Benjamin, du coup. Hein, mais bon, je ne vais pas vous faire non plus. Bon, bref. Première question. Où s'est déroulée la première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions?
Paris.
Benjamin, je l'ai entendu.
Oui.
Point bonus, quelle année et quel match?
58.
Non.
55,
non. 55, ouais. Real Madrid-Reims.
Non, c'est Coupe Latine, ça.
Okay. Non, Real Madrid-Reims, c'est le bon match. Non, 56.
Okay. C'est la Coupe Latine, ça.
Alors, un point pour Ben et un point bonus pour Agnès. Quel pays a remporté le plus de finales?
L'Angleterre?
Non.
L'Espagne?
Oui, l'Espagne. Qu'a dit l'Espagne?
Bon, c'est pas grave.
Point bonus, combien de titres?
15.
Oh non, plus.
Plus?
Ouais, plus.
18. 18.
Non.
Hein?
Non, il y a une réponse chacun. Il y a une réponse chacun pour le point bonus. Hein.
D'accord. Bon, ben, 20, 24.
Non.
Plus que ça.
Alors, il y en a 16.
Ah.
Mais je me demande si Solé n'a pas. J'ai un gros
c'est
gros.
C'est possible parce que le Real en a gagné.
On a gagné 5. On a gagné 5 à la moitié.
Donc ça fait 18.
Ça fait 18.
Et pas Solé.
Non, non, il y a un problème. Bah oui.
Ah, t'as dit 18. Ah, du coup, il y a quelqu'un qui a dit 18.
C'est moi.
Ouais, j'ai dit 18. Ouais. Non, j'ai dit avant toi, mon ami.
Ah ouais.
Ah ouais.
Parce que je calcule très vite.
Si, Elias a dit 18, je suis désolé. Hein. Non, mais oui, parce que moi aussi ça m'a fait bizarre. Bon, bref. Quel club a perdu le plus de finales de Coupe d'Europe des clubs champions? Ligue des champions et Coupe d'Europe.
Juventus.
Ouais, Juventus. Okay. Combien?
Alors, en tout cas.
Il n'y a pas de point bonus, ça.
6, non?
Ouais, 6, exactement. Ils en ont gagné que 2. 85 de triste mémoire et 96 contre l'Ajax. Donc pour l'instant, Elias a 2 points, c'est ça? Non? Tu as 2 points ou
3
points?
Non, 3 même, 3, parce qu'il y avait le 18.
Points, ben à 2.
Ouais, c'est ça.
J'ai Ilan là, il va falloir cravacher. Hein.
Ah, mais moi je réponds à des questions, il n'y a pas de points. Que veux-tu?
Quelle est la dernière équipe à avoir remporté la finale dans son pays?
Oula.
Il y a un club qui l'a perdu dans son pays. Deux clubs qui ont perdu dans leur pays.
Le Bayern, ils ont perdu dans leur pays en 2013.
C'est ça.
2012.
C'est pas la question, mais. Ouais, 2012, ouais. Ils perdent à l'Allianz.
Il a gagné dans son pays.
Je sais pas. C'est.
Non, on tape pas. Je vous entends, les mecs. Hein.
Franchement, de tête comme ça, je crois pas que je vais réussir. Ah oui, je sais. C'est Manchester United contre le Barça en 2011 à Wembley.
Ouais. Bah, c'est bien parce que Solé, c'est un peu. On met les crayons encore une fois. Parce qu'elle avait 97 avec Borussia qui gagne à Munich. Et la Juve en 96 qui gagne à Rome. Ouais. Mais oui, effectivement.
Non, mais là. Ah non, mais moi ouais. Je disais. Non, ça vaut pas. C'était celle qu'ils ont perdue. Moi, j'étais toujours au perdu.
Ah, donc c'est bon.
Ah oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, oui, t'as raison. Non, mais... Parce que là aussi, j'avais un. Bon, bref. Vous m'embrouillez, là. Bon, bref. Alors, personne n'a eu bon sur celui-là.
Personne.
Sixième question. Quel club a joué le plus de matchs de Ligue des Champions depuis sa création?
Madrid.
Ouais.
C'est moi, là.
C'est ça, ouais, il est pour toi. Donc, 3-3-0-0.
C'est trop simple, en fait.
Ouais, c'est ça.
quels sont les deux joueurs qui ont marqué le plus de buts contre Liverpool en Ligue des Champions?
Contre lui.
Ronaldo et Benzema.
Benzema, t'en as un. Il y en a un deuxième.
Bale.
Et...
Non.
Benzema.
Joue,
Raoul.
Non.
Ah, je n'ai aucune idée.
Vas-y, joue. Donne-nous un indice.
Quelle époque?
J'en donne un qui est facile. Époque récente. Époque récente.
Ok.
Il va revenir à Marseille.
Drogba.
Oh.
Ouais.
Yes.
Deux points de plus, hein.
Il va revenir à Marseille.
C'est chaud là entre Elias et Ben. Ouais, ça fait 5-4. Avant Zidane, quel est le coach, le dernier coach à avoir atteint la finale de Ligue des Champions 3 saisons d'affilée?
C'est Cruyff.
Non.
Ah.
C'est pas.
Yes, alors.
Non.
Ah, c'est celui du Bayern en 74, 75, 76, je crois, mais le nom, aucune idée.
Il y en a un avant.
Ah,
il y en a un.
Il y en a un avant.
Il y en a un avant. Il y en a un avant.
Non, c'est Herrera, non.
Je peux donner un indice, ça va être beaucoup trop simple si je donne un indice.
Non, c'est pas.
Comment?
Non.
C'est Ancelotti?
Non. Je vais donner un indice. 9 juillet 2006.
Dans ce qui c'est qui?
Marcelo Lippi. Ouais.
Marcelo Lippi. Ah, oui. 96, 17, 18. Quel est, alors, pas de rapport avec la Ligue des Champions. Quel est le club le plus titré entre le Barça et le Real?
Le Real?
Oui. Non.
Le Real.
C'est un piège. Ils ont 89 titres tous les deux.
Ah. Non, mais le Real, il a le titre du plus grand club du XXe siècle. Donc, ça fait un titre de plus.
Romal, direct.
Dernière question. Alors, celle-là, les costauds. Quel était le premier buteur espagnol en finale de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe des clubs champions?
Ouf.
J'ai failli faire un jeu sur la photo, une photo avec l'époque de Rento, l'époque des 5 Coupes d'Europe. On reconnaît très bien 4 des 5 joueurs et c'est le moins connu des 5 qui a marqué ce but-là.
C'est pas Amancio, non?
Non. Bien essayé, Amancio, mais non.
Voilà.
Je vais vous donner un indice. De toute façon, il y a un petit jeu de mots. Madrid. Il vous reste 10 secondes. 10, 9, 8.
J'en ai aucune idée de toute façon.
C'est Real. Le Real de Madrid.
Ah,
bon. Et Real a été un coéquipier essentiel dans la carrière de Rento. Voilà, qui après a pris son envol définitivement pour devenir l'homme le plus titré en Coupe d'Europe avec 6 titres. Et donc, il est toujours devant Ronaldo qui vient de remporter sa 5e, notamment. Donc, il a dû rejoindre Di Stefano et Di Stefano. Voilà. Et bien, donc, c'est qui a gagné du coup?
J'ai
pas suivi.
Moi, j'ai 5 en tout cas.
Ah ouais, c'est Elias qui a gagné.
Ouais.
Ouais, donc je redonne, je pouvais pas gagner cette semaine puisque c'est moi qui faisais des questions, parce que chaque fois je vous mets une raclée, les mecs. Mais voilà, c'est avec plaisir que je donne ma ceinture à Elias, donc avant le Espagne et Suisse de dimanche.
Ah oui, c'est vrai ça va être un grand match, tu verras.
Ouf.
ça serait bien que la Fédé espagnole m'autorise à payer mes billets parce qu'ils ont refusé 5 fois mes compléments, donc je crois qu'ils ne veulent pas que j'y aille tout simplement. Ah, ce sera la Serie Amica de Villarreal, voilà. Et ce week-end à Villarreal, il y aura aussi le tournoi à la Liga Promises des moins de 12. Voilà. Merci à tous d'avoir été nous avoir accompagnés pour ce lundi. Benjamin Gaucher, bonsoir.
Bonsoir.
Elias Baylif, bonsoir.
Salut, à bientôt.
Jep Antio, bonsoir.
Bonsoir.
Et Elan, bonsoir. Et puis à bientôt sur God Save the Foot.
Bonsoir et merci. De toute façon, on fera encore des collaborations ensemble.
Voilà, comme disait Pascal Obispo, we live for Football United. quitte à citer les grands auteurs, autant directement par le grand Pascal.
T'as ta copoète.
Voilà.
Il y a tellement de culture à faire que c'est ébahi.
Ouais, voilà, tu vois, je sais que vous êtes ébahi par tant de culture musicale. Et je sais, moi, dans la vie, j'ai Obispo et Zazie. Quoi. Voilà.
Voilà. Donc, c'est après, ça d'être fan, FM.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais le seul qui peut nous chambrer en matière de musique, c'est Camélias, parce que quand même, nous, on a quand même Cyril Hanouna qui va nous faire l'hymne pour l'équipe de France.
Ah, c'est vrai.
Donc voilà, pour en équipe de France, il y a le match. Donc je vais vous laisser voir le match des Bleus contre l'Irlande. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur footballaliga.fr, nos articles. On a l'analyse de la finale très complète qui va arriver. Un reportage inside de la célébration à Bernabeu aussi demain matin. On avait quelqu'un qui était. Benjamin, tu sais quand est-ce qu'on aura les. Ça sera disponible sur iTunes, Artist et compagnie. C'est toi qui te. C'est toi le master of ceremony de ça.
Entre ce soir et demain matin,
le maître du podcast. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on démarrera notre cycle Coupe du Monde. Là, cette semaine, on va faire toutes les équipes types de la saison, de la Segunda aux révélations, aux flops et une phase retour et saison complète. Voilà, donc pour bien terminer notre cycle Liga avant d'entamer. Notre chemin de Michel Strogoff vers la Russie. voilà, d'un seul coup, on sort. Bref. T'as la référence, c'est sympa. Bon, allez, à la semaine prochaine. Allez, hasta luego. Ciao, adeo.